Je m'appelle Sabine Pérouse, je suis épouse et mère et grand-mère, et mon métier c'est journaliste, journaliste d'investigation, et dans mes investigations je suis tombée sur l'association ECHO, donc que vous voyez ici présentée, qui s'intéresse au christianisme des origines, c'est-à-dire vraiment le temps juste après la Pentecôte, enfin, le temps où Jésus était sur terre et ce qui s'est passé juste après la Pentecôte. C'est pour ça que je parle d'expansion de la bonne nouvelle, ce que nous allons étudier ce soir, comment ça s'est passé. Et voilà, vous savez l'essentiel. Donc, mon exposé sera sur trois points, comme je l'avais mis dans la fiche si vous l'avez eu. Comment la bonne nouvelle a-t-elle pu être répandue après la Pentecôte? Quelles sources nous informent sur ce temps lointain? Et enfin, quelle richesse en retenir pour notre époque? Nous allons commencer par le contexte socioculturel de l'époque de Jésus. Donc, ce contexte est double. Il y a d'abord une culture orale, très importante, bien qu'il soit difficile pour nous, héritiers du droit romain et de la logique grecque et de l'esprit cartésien, de l'imaginer, une transmission orale peut parfaitement être tout à fait fiable. Vous avez sans doute entendu parler des civilisations reculées, des tribus peu civilisées par rapport à nous, où les personnes sont capables de réciter en guise de carte d'identité les 40 générations qui les précèdent. Et bien entendu, ils s'en souviennent, et bien entendu, ils n'écorchent pas les noms, et bien entendu, ils ne rajoutent rien. La civilisation orale que nous avons perdue, nous occidentaux, est encore très vivante dans certaines populations, et elle est fiable. C'est juste difficile pour nous d'y penser. À l'époque de Jésus, la mémoire des personnes était beaucoup plus entraînée que la nôtre, puisqu'on se servait peu de l'écrit, spécialement dans les cultures orales auxquelles appartenait le monde hébraïque. Dans ce monde, les histoires que l'on raconte aux enfants retracent les faits et gestes des grands personnages de l'Ancien Testament. Ce n'était pas encore les super-héros, mais ce qu'ils avaient à l'époque, leurs héros, c'était cela. Et ils connaissaient les histoires par cœur à force de les entendre. C'est varié, c'est imagé, et le récit peut être chronologique ou bien transversal si l'on compare les héros entre eux. La récitation est facilitée par des phrases courtes, rythmées, et par le balancement et la respiration est accompagnée de gestes. De plus, le fonctionnement mental de la mémorisation est très différent de celui d'une lecture, car il y a plusieurs chemins d'accès pour en retrouver la trace. Un peu comme le souvenir d'un être cher peut ressurgir soit à partir d'une date, soit à partir d'une odeur, soit à partir d'une photo, ou même d'une mélodie. Ça, c'est pour la culture orale. La langue usuelle. Dans ce contexte socioculturel, la langue. Dans cette région du monde, la langue véhiculaire est celle des caravanes qui faisaient le commerce international d'ouest en est, notamment sur les routes de la soie. On l'appelait la langue des chameaux, puisque c'était celle des caravanes, et c'était l'araméen, tout le long de la route de la soie. Ah oui, je vais vous passer le... Voilà. Vous voyez au centre envers, c'est l'empire parthe, c'est-à-dire l'empire qui était juste vers l'Orient, juste après l'empire romain. Et après, vous avez l'empire Kouchan, qui était ce qu'on pourrait appeler après l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan faisait partie de l'empire parthe, l'Iran et l'Afghanistan. Et ensuite, vous avez en violet les extensions de l'empire chinois. Donc tout le long, vous voyez ce qui est tracé, ce sont les routes possibles. Alors, il y avait bien entendu des variantes dialectales de cet araméen en question, mais les gens pouvaient se comprendre d'un pays à l'autre. Cette langue avait été rapportée en Judée après le retour de l'exil babylonien. C'est donc en araméen que Jésus parlait à ses apôtres et à ses contemporains, dans les synagogues et dans le temple. L'hébreu, en fait, restait la langue liturgique. Mais même certains livres de la Torah étaient traduits en araméen. Alors maintenant, le contexte religieux. Il recoupe évidemment le contexte culturel, car dans la civilisation hébraïque, les us et coutumes découlent directement de la loi donnée à Moïse et des directives élaborées en conséquence. Ainsi, la formation des garçons passait par l'apprentissage par cœur des principaux textes canoniques. D'ailleurs, dans les synagogues, les lectures, entre guillemets, étaient récitées et non lues. Il y avait juste un souffleur pouvant suivre le texte de référence en hébreu, habituellement conservé dans une armoire sacrée qui est un petit peu l'ancêtre dans le tabernacle. Et l'apprentissage pouvait se poursuivre ensuite pour les garçons auprès d'un rabbi sur un cycle de 3 ans. 3 ans, c'est important, il faut s'en souvenir. Et les travaux des champs séparaient l'école d'été, à partir des fêtes de Pâques, de l'école d'hiver, qui commençait avec la fête des tentes, donc après les récoltes. De leur côté, les filles devaient connaître par cœur aussi. Elles devaient connaître les prières et les textes des cérémonies du Shabbat à la maison. Il leur revenait de composer aussi les histoires de la famille et avec les principaux événements pour les raccrocher ensuite à la tradition familiale de leur mari et les transmettre ensuite à leurs enfants. Donc elles avaient un rôle très important aussi, y compris au point de vue du fonctionnement de la composition et de la mémoire. Ces élaborations seront faites à l'occasion des veillées en famille ou avec les voisins, au cours desquelles témoignages et récits sont confrontés, vérifiés et, une fois qu'ils sont bien établis, officiellement reconnus. Enfin, en cas de procès, la loi juive demande la déposition orale de 2 témoins masculins, sans lien de parenté, en commençant par le plus ancien, pour être complété ou approuvé par le témoignage du plus jeune. On sait que Jésus a prodigué son enseignement sur 3 ans. Il s'est donc calé sur la pédagogie de son époque. Bien sûr, Jésus était de culture juive, les apôtres également, et ils ont suivi ce qu'il se passait dans les synagogues, avec les cycles d'apprentissage, avec les lectures, avec le Shabbat, etc. Alors maintenant, le troisième point, la composition de la Bonne Nouvelle et sa propagation. Pour transmettre son message, Jésus a donc souvent imagé, répété ses récits et structuré ainsi la mémoire de ses apôtres. Il est apparu souvent entre la résurrection et l'ascension, au cours des 40 jours où se placent les semaines de ce qu'on appelle le parcours de remémoration. Quand les apôtres revisitaient les divers lieux où ils étaient passés avec Jésus, ils leur rappelaient ce qu'il avait dit à tel endroit, justement pour la mémoire visuelle qui appelle le souvenir. Le but typique de toutes les civilisations orales est de faire donc ressurgir dans leur mémoire les paroles prononcées dans ces environnements. Le problème, c'est que depuis 4 siècles, on a décrété que le Nouveau Testament a été composé en grec. On a tous appris ça à la base. Et c'est ce que les chrétiens d'Orient ont toujours contesté. C'est une influence d'exégètes protestants, mais elle est entrée dans l'habitude des catholiques. Et c'est là que des recherches récentes sont intéressantes parce qu'elles ont montré que c'est impossible que tout vienne d'un texte grec, pour 2 raisons principales. Premièrement, le présumé texte original grec devrait être un compromis entre 7 familles de Grecs et de manuscrits irréconciliables. C'est donc impossible. Il y a trop de différences entre eux. Ce qu'on nous présente comme un texte grec est en fait une composition assez récente qui prend des passages ici et là qui semblaient les plus probables, mais un tel texte original n'a jamais existé. Si on connaît assez d'araméen et de grec ancien, en comparant ligne à ligne, on voit peu à peu lequel des deux est traduit de l'autre. Cela, je l'ai appris par les chercheurs, justement, de l'association en question. Et je vous donnerai le site internet sur lequel vous pourrez vous renseigner. Et il y a notamment une page qui s'appelle « La primauté de l'araméen sur le grec ». Et c'est frappant. Ils ont étudié, donc, ce sont des personnes qui connaissent justement à la fois le latin, le grec ancien, l'hébreu, l'araméen et l'arabe. Donc, ils ont pu étudier de près et acquérir cette certitude. Ils ont donné des exemples. Des exemples un petit peu d'aberration sur les textes que nous avons finalement dans nos lectionnaires. Je vais vous citer par exemple dans la lettre de Paul à Timothée. Vous vous souvenez certainement qu'à un moment il lui dit tu vas passer donc en venant rapporte-moi mon manteau. Ça vient d'un mot qui n'existait pas, un mot araméen qui n'existait pas en grec. Donc ils ont dû essayer de prendre une traduction qui, si possible, s'en rapproche plus et qui a l'air logique. Bien sûr, si tu as oublié ton manteau, je vais te le rapporter, enfin, puisque je suis là. Bon. Mais ce n'est pas du tout ça. Il s'agit d'une boîte, on pourrait dire à trésor, d'une boîte à richesse, et en fait, c'est son tabernacle. C'est-à-dire le coffre si précieux, bien sûr, dont il a besoin pour prêcher, dans lequel étaient les rouleaux de la Torah et tout ce qu'il voulait emporter avec lui. C'est pas du tout un manteau. Donc, primauté de l'araméen. En plus, aucune église apostolique ne dit disposer du texte original des évangiles, sauf une, c'est l'église assyro-chaldéenne. Les Chaldéens, en fait, leurs lectionnaires sont en araméen. Ils ont donc gardé depuis toujours les paroles initiales, ce que les apôtres leur ont transmis. C'est extraordinaire parce que on ne savait pas ça depuis des siècles, quoi. Alors qu'en France, Marcel Jousse, le cardinal Tisserand, ont commencé à étudier de près. Ils ont comparé, ils connaissaient les langues anciennes, et ils ont initié comme ça un processus. Et peu à peu, des chercheurs se sont penchés sur la question et sont arrivés à découvrir justement ces aramaïsmes qu'on trouve dans le grec. Ensuite, on s'est approché davantage des églises de l'Orient, notamment l'église chaldéenne. Et c'est là qu'ils ont pu comparer et acquérir cette certitude. Alors, je vous parle maintenant de la composition des quatre évangiles. Prenons celui de Matthieu, c'est essentiellement un lectionnaire. Les apôtres, une fois que Jésus était retourné auprès du Père, après la Pentecôte et avoir reçu cette force intérieure, ont commencé à baptiser, comme vous le savez, et ensuite, ils devaient transmettre quelque chose, ils devaient instruire. Donc, ils ont commencé à faire des cycles de 3 ans, comme ils avaient appris dans les synagogues. Et donc, le lectionnaire de Matthieu, l'évangile de Matthieu est vraiment bâti comme un lectionnaire pour pouvoir, sur 3 ans, faire le tour de tout ce qui est l'essentiel de la bonne nouvelle. L'évangile de Marc, c'est celui de Jean-Marc, qui est donc le traducteur, l'interprète de Pierre à Rome. On entend parler de Jean-Marc dans les Actes des Apôtres. Paul le cite. Donc, c'est lui qui a accompagné Pierre à Rome. Et assez vite, comme il y avait une grande population hébraïque à Rome, Pierre a pu prêcher, intéresser, convaincre, transmettre la foi. Et une fois qu'il avait beaucoup parlé, certains avaient envie d'avoir quelque chose en main. Et donc, assez vite, Marc a non seulement traduit, mais donné à certains copistes qui ont commencé à travailler et à faire distribuer le contenu. Marc rendait compte du témoignage, car la prise des notes est très facile en araméen du fait qu'on n'écrit que les consonnes. Cela va très vite, un peu comme en sténo pour les plus anciens d'entre nous. En l'an 42, Pierre était déjà à Rome. Parce qu'en fait, il y a eu une grande persécution en 41. Donc là où Jacques le Majeur, en fait, a été tué. Et juste après, ils se sont tous dispersés. La plupart sont allés à Antioche. Pierre est parti à Rome. Ils sont restés à Jérusalem. Jacques le Mineur, qui était donc le cousin de Jésus et qui était le premier évêque de Jérusalem. Et en tant que descendant de David, il était intouchable, en fait. On ne pouvait pas ni le mettre en prison. Une fois que Jésus était mort, il n'y avait plus de descendant de David. C'était Jacques. Donc, il a eu la vie sauve et surtout, il a pu rester, conforter ses frères à Jérusalem. Et vraisemblablement, je crois me souvenir d'après mes lectures que Jean et la Vierge Marie, je crois, sont restés aussi cette année-là. Tu confirmes ? Merci. Donc, Marc, toujours à Rome. Donc, Marc était. Ah oui, il y avait nécessité de produire un texte de référence avec, évidemment, l'approbation de Pierre. Il est donc passé, c'est sans doute un des premiers qui est passé du témoignage oral à une messe par écrit, d'un aide-mémoire surtout. Ça n'empêchait pas les autres de proclamer la parole de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle, mais on avait une référence écrite. L'évangile de Luc, alors c'est à la fois le témoignage de Paul et celui de la Vierge Marie, ou sans doute en plus l'un ou l'autre des apôtres. On sait que cet évangile laisse une grande place à la miséricorde et à la partie aussi de l'évangile de l'enfance. Et enfin, de son côté, Jean a fait son travail vraisemblablement en 3 fois. Quand les chercheurs analysent la composition de l'évangile de Jean, c'est ça qu'il voit. Il a commencé par faire son témoignage avec Pierre, Puis il a fait une autre composition en filet, et enfin il a enrichi avec des souvenirs supplémentaires, sans doute de la Vierge Marie. Donc chaque témoignage de la bonne nouvelle a été composé de façon très méthodique, puisqu'il était destiné à être retenu par cœur. Les évangélistes ont tout simplement appliqué les méthodes de composition de leur époque. Donc, dans les civilisations orales, les récits sont composés de textes élémentaires qui représentent plusieurs versets, qu'on appelle une perle, un petit texte élémentaire, et ces perles sont assemblées en collier, dans un ordre bien précis. Ainsi, pour un mémorisant, chaque perle contient quelques versets du même sujet que la perle suivante, ce qui permet, dans un contexte, de faire un ensemble qu'on appelle un collier. Alors, vous avez ici un exemple du serment sur la montagne, donc dans l'évangile de Matthieu, et vous avez une perle noire au milieu qui est le pater, parce que chaque perle est mise en valeur par les autres, mais aussi par sa place dans la composition. On va faire un petit intermède, parce que pour vous montrer l'intérêt de...
Il ne faut pas que j'aille trop.
Pour vous montrer l'intérêt de l'oralité pour la parole de Dieu, en fait, les chercheurs ont mis au point une technique de découpage en perles de l'évangile. Et quand je faisais des sessions avec eux, j'en ai retenu une que je vais vous livrer. Ça permet d'avoir l'évangile dans le cœur. Parce que quand on le connaît par cœur, voilà, il sort quand on veut, quand on peut. Alors, c'est la perle de l'annonce du paraclet. Au moment, dans le jeudi saint, en Saint Jean. C'est traduit de l'araméen, donc c'est un peu différent du texte, enfin, c'est un petit peu plus coloré que le texte qu'on a l'habitude d'entendre. Si vous éprouvez de l'amour pour moi, mes commandements, gardez-les. Et je prierai mon Père qui est dans les cieux, et il vous enverra un autre paraclet, qui sera avec vous pour toujours. Celui que le monde ne peut pas connaître, parce qu'il ne l'a pas vu, il ne le connaît point. Vous, vous le connaissez, parce qu'il est auprès de vous qu'il demeure, et c'est en vous qu'il est. Amen. Alors, on va passer à la propagation de la bonne nouvelle. Cette propagation a commencé très vite, d'abord du temps de Jésus, auprès des 12, puis des 72, avec le chiffre 6 qui est important, parce que dans le monde hébraïque, chaque rabbi pouvait avoir 6 disciples. Ce qui permettait une petite équipe où on s'entend bien, au sens propre du terme. Et après, une fois qu'ils étaient formés, chacun pouvait aussi former 6 personnes. Donc on passe aux 72. Puis on passe aux 500. Donc ça, c'était encore assez vite. Trois disciples à droite, trois disciples à gauche, et comme ça, et le maître pouvait enseigner généralement dans la nature ou dans les maisons, mais quand c'était dans la nature, c'était souvent dans des grottes. Et alors, il était face au soleil pour être éclairé, et on a retrouvé je vous en parlerai un peu après, des grottes mystiques qui sont les grottes d'enseignement en fait des apôtres. Puis les disciples se sont multipliés à nouveau, et ainsi à la Pentecôte on entend parler des 3000. Les 3000, c'est 500 fois 6, entre parenthèses. À partir de la Pentecôte, la propagation s'est faite très rapidement. Parce que dès l'automne suivant, au début de l'école d'hiver, donc après la fête des Tentes, on entend parler de Pierre et Jean qui enseignent sous les colonnades de Salomon. Ça vous dit quelque chose dans les Actes chapitre 3? C'est l'emplacement réservé au rabbi, normalement. Et dans la version araméenne des Actes, ce qui impressionna le Sanhédrin au point de les juger inattaquables légalement, ce n'est pas le miracle qu'ils ont fait en entrant. Ils ont guéri le... Non, c'était un paralytique. Ils ont guéri un paralytique. Mais c'est pas ça qui a impressionné Saint-Malgrin. C'était qu'en fait, ils disent, ce sont des gens sans expérience, soi-disant sans instruction. Mais pas du tout. La proclamation qu'ils ont faite sous la colonnade de Salomon, justement, était un texte déjà structuré, bien composé, et un récit à deux, avec un plus âgé et un plus jeune. Donc ça rentrait tout à fait dans ce qui était acceptable pour eux. Ils étaient inattaquables, finalement. Alors, la diffusion a pu se faire selon les quatre points cardinaux. Comme en témoigne cette croix chaldéenne. Alors, c'est pas très grand, est-ce que vous arrivez à voir? Donc, selon les quatre points cardinaux, vous avez la direction comprise les apôtres. Ça, c'est ce que les Chaldéens ont dans leur église. Je suis allée d'ailleurs à Noël avec une de mes petites filles dans l'église chaldéenne de Bruxelles, là où je vis. Et à la sortie de la messe, je lui ai dit, tu as vu cette croix au fond? Non, on ne voyait pas très bien, enfin, au fond du cœur. Et tu as vu qu'il y avait des visages? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais tu comprends ce que c'est? Elle m'a dit, je pense que c'est les apôtres. Oui. Voilà. Donc vous avez quelques indications et on va s'intéresser surtout sur ceux qui sont partis vers l'Orient, parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir, on en aurait jusqu'après minuit. Mais vous voyez Barthélemy, Thomas et Jude qui sont partis en fait Beit Aramée, c'est-à-dire la région de Chaldée, c'est la Mésopotamie. Mais on voit aussi, bon, je vous laisse regarder un petit peu chacun, les diverses directions. Et Marie au milieu. Alors, cette diffusion, selon les quatre points cardinaux, a été facilitée par la présence de communautés juives tout le long, en fait, de la route de la soie, à cause des diverses déportations qu'ils ont subies. D'abord au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était le nord de la Palestine, avec la Galilée et la Samarie, qui ont été déportés. Et ensuite, j'ai plus connu l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et tous ne sont pas revenus à Jérusalem. Certains ont fait leur vie sur place et sont restés donc en Mésopotamie. D'autres sont allés plus loin pour faire du commerce. Donc il y avait tout le long de la route des communautés hébraïques. Alors, je vous montre cette carte parce qu'on parle toujours de ce qui se passe côté ouest. On connaît très bien par les Actes des Apôtres tous les voyages de Saint Paul et toutes les rencontres, etc. On a tous les détails qu'il faut. Mais en dehors de l'Empire romain, on ne sait presque rien. Donc c'est ça qui nous intéresse ce soir. Comment ça s'est passé Je ne sais pas si les villes apparaissent assez grandes pour qu'on voit. Donc vous reconnaissez ici l'Iran. Donc au nord, vous avez Bactriane, qui est en fait non, Bactre, c'est-à-dire en Afghanistan. Et après, vous avez toutes les régions du nord de l'Inde. On contournait en fait l'Himalaya par le nord et on pouvait arriver jusqu'en Chine. La première transmission s'est passée en passant, vous voyez Petra, vous voyez Damas, vous voyez Pamir. Ça, c'était les premières routes. Ensuite, certains sont passés dans la péninsule arabique. On a retrouvé à Sanaa, on a retrouvé à la Mecque le pavement de la cathédrale de Sanaa. Ça veut dire que dans la péninsule arabique, il y avait déjà une cathédrale avant l'arrivée de l'islam. Donc, grâce à ces communautés juives, la plupart des villes de l'itinéraire de la route de la soie étaient peuplées de personnes aptes à comprendre ce que les apôtres avaient à dire. Donc, beaucoup ont adhéré à l'annonce transmise par ces apôtres. Ainsi, les juifs devenaient les relais permanents des apôtres le long des routes et des disciples qui s'adressaient également aux populations locales dans diverses langues. Alors, quelques dates. En 37, a eu la première persécution. Je vous parlais de 40 tout à l'heure, je me suis trompée. C'était en 37. Beaucoup passent alors par Antioche, la grande ville à l'extrémité de la route de la soie. Et il est démontré que Pierre soit passé aussi à Rome dès l'an 42. On a retrouvé des grottes mystiques de l'enseignement des apôtres à leurs disciples à plusieurs endroits du monde. Par exemple, à Constanza, sur la bouche du Danube, où prêcha André. Alors ça, c'était André, on l'a vu. On a trouvé aussi sur les bords de la mer Noire, des grottes. On a trouvé près de Ninive, avec saint Thomas. Et on a trouvé même une en Chine. C'est la fameuse falaise où saint Thomas est adossé à une de ces grottes. On a la certitude maintenant que, d'après les fouilles, on a trouvé auprès de cette falaise un ensemble ressemblant à un temple, en fait, était orienté vers l'est, c'est-à-dire était juste orienté, quoi. Alors que les temples en Chine sont toujours nord-sud. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, je vais vous parler un peu des sources quand même. Quelles sources nous informent ce temps lointain ? D'abord, l'Église assyro-chaldéenne. Elle affirme que son texte de référence en araméen, qui s'appelle la Peshitta, est bien conforme au yod près à la recopie faite par Marie, qui est l'un des 72 disciples, sur le texte de référence de l'Église de Jérusalem. Il y a bien eu un texte retenu comme canon peu avant l'encerclement de Jérusalem par les troupes de Titus et la destruction de la ville en 70. Donc, les techniques d'oralité des peuples de l'Orient sont résumées par Pierre Perrier dans son livre « La transmission des évangiles ». Ça, c'est un document extraordinaire. Ce chercheur, qui a donc fondé ECHO, a poursuivi pendant 50 ans les travaux du cardinal Tisserand, précurseur dans l'étude de l'araméen, et du père Marcel Jousse dont je vous parlais tout à l'heure. Pierre Perrier s'est aussi mis à l'école pendant 7 ans de Mgr Ali Chauvan, de l'église chaldéenne catholique, spécialiste de l'araméen ancien. Depuis, un texte très oral a été traduit directement de l'araméen à la lumière des traditions des chrétiens chaldéens, dont c'est la langue liturgique, depuis la fondation de l'église de Ninive par Barthélemy et par Mar Adai et Mar Marie, les deux disciples laissés derrière lui par Thomas, parce que Thomas était pressé de continuer vers l'Orient pour atteindre l'Inde d'abord, puis la Chine. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler d'un colloque qui a eu lieu à Rome il y a 2 ans, ouais, presque 2 ans et demi. C'est un colloque international dont on n'a pratiquement pas parlé dans la presse catholique française. Il a été annoncé par la vie, selon le communiqué de presse qui a été fait 15 jours avant, et après, silence radio. Mais ce colloque est extraordinaire. C'était un colloque justement pour regrouper tout ce qu'on savait à travers le monde sur le tout début de l'évangélisation. Vous aviez des chercheurs canadiens, allemands, italiens, qui sont très forts, français, indiens et chinois, arméniens, mais les français. Il y avait effectivement, alors, à la fin du colloque, j'ai pu interviewer 3 personnes. Un français, un arménien qui est professeur d'arménologie. J'ignorais que cette chaire existait sur le plan universitaire, l'arménologie. Et enfin, un chinois qui travaille en France. Donc, ces 3 ont donné des éléments de ce qu'ils avaient livré au Vatican dans ce colloque. Et si ça vous intéresse, vous me donnez votre adresse email à la fin de la séance et je vous enverrai l'article que j'ai écrit. C'est juste une page parce qu'on ne peut pas écrire trop longuement, les gens ne lisent pas sinon. Et donc, qui récapitule un petit peu ce qui s'est dit, quoi. C'est phénoménal. Et l'Arménien, justement, j'y repense maintenant, m'a dit que dans son pays, au 7e siècle, il existait une prière qui disait, je résume parce qu'elle est assez longue, mais « Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes et pour nos frères à travers le monde, nos frères d'Iran, nos frères d'Inde et nos frères de Chine. » Ça veut dire que dans les années 600 et quelques, au 7e siècle, les Arméniens savaient qu'il y avait des chrétiens en Chine. Alors que nous, en Occident, il y a encore plein de gens qui en doutent, quoi, que Saint Thomas soit allé là-bas. C'est pas à partir de Marco Polo que ça s'est passé, c'est pas que les pères des missions étrangères qui ont évangélisé, ni les jésuites avant eux. Non, il y avait déjà des chrétiens du temps de Saint Thomas. Il est allé là-bas. Alors, les sources en question. Il existe un texte qui s'appelle les Actes de Thomas. C'est ce qu'on appelle un texte apocryphe. Apocryphe, ça ne veut pas dire hérétique. Ça veut dire que ce n'est pas directement les paroles de Jésus. C'est ce qui s'est passé autour. Et dans ce texte de Thomas, dans les Actes de Thomas, il y a au cœur de ce grand récit qui raconte en fait ce que Thomas a fait, il y a un petit texte très différent du reste, écrit dans une langue plus approfondie, l'araméen d'Empire, très correct, très, très recherché, et écrit à la première personne. Et Pierre Perrier, qui connaît bien l'araméen, a étudié les diverses compositions des actes en général et de ce cœur-là, et il en a conclu que c'était vraiment la confession de Thomas sur son action en Inde, ça se passe en Inde, Ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est, ça ressemble à un conte d'Orient. Et cette, ce petit cœur du récit a longtemps été considéré comme l'histoire d'un prince qui allait chercher, qui devait arracher une perle précieuse à la gueule d'un dragon et rapporter à son père ou au roi. Voilà. C'est pas ça, parce que en araméen, les choses précieuses, quand c'est un apôtre qui parle, bah, c'est les paroles de Jésus. Et qu'est-ce qu'on va arracher au dragon? On va arracher des gens qui sont possédés par des esprits mauvais, on va les guérir au nom de Jésus et on va les sortir. Tout est la langue est polysémique, donc ça veut dire plusieurs choses. Et donc quand on a été traduit en grec, ça ressemblait à rien. On dit oui, c'est un conte oriental. Voilà. Et ça, c'est vraiment... ce livre est bouleversant parce que vous avez Thomas qui est parti là-bas avec... Là, je vais vous remettre la carte. Qui est parti là-bas en partant de Ninive, donc, où il a fondé... une communauté, deux communautés, où il a laissé ses premiers disciples, il est allé plus loin, il est allé en Inde, et là, il a retrouvé une communauté hébraïque, donc il a trouvé quelqu'un qui parlait à la fois l'araméen et la langue locale, il l'a baptisé, converti, baptisé, et l'autre est allé, plus jeune, il l'a suivi en Inde pour transmettre la bonne nouvelle. Et il a eu la mauvaise idée de l'emmener à Patala, je ne sais pas si on voit ici,
on voit.
Qui est en fait un port et qui est un petit peu la Sodome de l'Inde à l'époque, c'est-à-dire vraiment beaucoup de péchés, beaucoup de et des gens possédaient vraiment, c'était pas, il y avait un mélange de culture, un mélange de croyances, et en fait Thomas n'a pas réussi à transmettre ce qu'il avait dans le cœur. Et il a essayé un petit peu de composer avec les méthodes locales, avec la culture locale, avec les dieux locaux, etc. Et il écrit dans cette perle du cœur des actes de Thomas qu'il est tombé dans le mal, qu'il a mangé avec eux, c'est-à-dire qu'il a partagé la nourriture, donc voilà. Et finalement, il est tombé en dépression. Et il raconte que par le biais des frères araméens, hébraïques, qui sont sur les routes, les nouvelles arrivaient quand même. Les caravanes allaient dans les deux sens, évidemment. Donc la nouvelle de son désarroi et de son manque de réussite terrible, qui l'affecte énormément, est parvenue à Jérusalem, c'est-à-dire à Pierre. Et Pierre lui a envoyé un messager pour le réconforter et pour l'inviter à le rejoindre. Non, à reprendre, j'allais dire du poil de la bête, c'est-à-dire à retrouver l'essentiel de sa mission. Il ne faut pas oublier que Thomas, vous vous souvenez comme il a souffert après la mort de Jésus, et qui ne voulait pas croire à la résurrection. C'était pas possible pour lui. C'est vrai, vraisemblablement un tempérament de feu, puisqu'à un autre moment de sa vie, il disait, quand Jésus disait « on ne va pas aller tout de suite par là parce que c'est dangereux, on va faire un détour, ça. Oui, oui, allons-y, allons mourir avec lui, etc. » Je ne sais plus à quel passage c'est, mais bon, il a un tempérament de feu, mais alors pour croire à la résurrection, non. Il était tellement abattu qu'il ne pouvait pas le croire. Il a fallu que Jésus prenne sa main et le mette dans son côté pour qu'il croie vraiment. Et en Orient, Thomas n'est pas appelé celui qui a douté, il est appelé celui qui a touché. Vraisemblablement, le mot toucher est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'après, c'est le seul qui est allé si loin, hein, quand même. Donc il est vraiment... Il a un feu intérieur très fort, ce qui ne l'a pas empêché de se tromper une fois, mais il a été revigoré par la lettre de Pierre et qui l'a invité à reprendre sa place. Alors le texte, je ne peux pas vous le dire de mémoire, mais c'est très très beau, c'est « N'oublie pas que tu es fils du roi et que tu as la chape d'honneur », c'est-à-dire la grande chasuble. C'est un grand prêtre en fait. Les apôtres, ils étaient tous devenus des prêtres. Et que tu dois parler de... Il y a mis un nom pour le Christ, mais voilà. Et après, rejoins-nous. Alors, on sait aussi dans le monde hébraïque que les années sabbatiques, qui avaient lieu tous les 7 ans, étaient en fait le moment où toutes les communautés dispersées essayaient de revenir à Jérusalem. Donc, ils ont tous espéré que la prochaine année sabbatique, Thomas serait là. Et il parle dans cette perle intérieure des actes de Thomas, il dit qu'il s'est relevé, qu'il a célébré, et qu'après, il est reparti rejoindre les apôtres, ses frères. Voilà. Donc, c'est un très, très beau témoignage. Alors, je vous parle de Thomas parce que c'est celui sur lequel j'ai interviewé le plus de personnes. Et il y a pas mal de documents, en fait, qui sont parus pour faire le tour de la question, puisque c'est lui qui est allé le plus loin. Donc vous avez des livres du premier acte du colloque de 2013, qui sont sortis. Ça, c'est la carte qui... Ah ben, voilà, qui vous dit un petit peu par où il est passé en partant de Ninive et pour partir plus loin. Et là, vous avez, alors justement, Pierre Perrier, le chercheur en question, qui n'est plus tout jeune, hein. Il a 84 ans, et il a découvert, donc, vous voyez, un rocher sur lequel il y a un personnage. Ce personnage ici que vous voyez là, Pierre Perrier, qui est spécialiste de la mécanique des fluides, qui n'est donc pas spécialement un archéologue, a été invité en Chine pour un congrès en 2008. Et avant, des chercheurs chinois avaient découvert cette immense fresque et n'arrivaient pas à savoir qui étaient ces deux personnages. Parce que la fresque est très très grande, c'est un grand rocher, c'est une falaise en fait qui se trouve sur la route entre le port, le principal port de l'époque, et la capitale des Han postérieurs, c'est-à-dire Xi'an. Et sur cette route, non loin du port, il y a une grande falaise, à l'extrémité de laquelle il y a ces deux personnages. Et les archéologues chinois n'arrivaient pas à comprendre qui étaient ces personnages, parce que tous les autres, ils arrivaient à les comprendre. Ils étaient d'un même style, ils étaient chinois. Et elle correspondait aussi aux chroniques anciennes qui parlaient de l'empereur Mingdi, donc dans les années 60-64 après Jésus-Christ. Mais ces deux-là, ils ne savaient pas. Donc, et quand Pierre Perrier les a vus, il dit « C'est normal que vous ne puissiez pas les connaître parce qu'ils sont habillés comme des Parthes. » Notamment, ce bandeau que vous voyez, ça n'existe pas comme ça en Chine. Et c'est le bandeau qui ressemblerait un petit peu à une mitre, mais courte, qui était en fait le couvre-chef des prêtres. Donc, les apôtres étant des prêtres, c'était normal. Et à côté, vous avez son traducteur qui, d'une main, de la main droite, atteste que ce que dit le plus âgé est vrai. Et dans l'autre main, alors c'est mal éclairé, mais sous d'autres formes on le verrait, il tient un rouleau, c'est-à-dire l'essentiel. Voilà, là on le voit autrement, et il a devant lui comme un autel, en fait, vous voyez. Il y a eu donc des traductions aussi en anglais, et les actes d'un colloque qui a eu lieu au Kerala en 2019. Enfin, récemment, il y a eu une autre personne Marion Dubochel, qui a étudié les trajets de saint Thomas en Inde essentiellement, et elle a retrouvé en Inde non seulement le lieu où il a été martyrisé, son tombeau, mais des tas d'endroits où il y a, en plein milieu de la ville, une statue de saint Thomas, marquant celui qui a touché. Ou alors Jésus avec Thomas tombant, une statue de Jésus avec Thomas tombant à ses pieds. C'est très très beau. Il y a beaucoup en fait. Ça, dans les actes de Thomas, il est dit qu'il a apporté l'évangile aux Indiens, mais que pour ça, il fallait traverser des contrées qui étaient d'une autre civilisation. Et donc, on nous parle du roi Condophares, qui est connu dans l'histoire. Quoi. C'est précis. Et il aurait reçu des lettres de recommandations pour pouvoir traverser les territoires grâce à ce roi. Ah oui, j'ai une image du Kerala. Voilà. Les divers endroits du Kerala, oui, c'est trop petit. Je ne veux pas vous frustrer. Voilà, là, c'est mieux. Voilà une photo dont je vous parlais. On voit une statue de Thomas au pied de Jésus. Et en bas, une grotte, à Millipore. C'est là où Thomas aurait été assassiné. Mais pratiquement, on est sûr, parce que les traditions, en fait, se sont perpétuées de père en fils, et les gens racontent. Et comme ça, au fil des années, c'est pas... Les traditions, c'est pas des légendes. Voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Donc, maintenant, je peux répondre à vos questions, si vous en avez. Je vous ai apporté un certain nombre de livres qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est pas pour les vendre, parce que ce sont les nôtres, mais c'est pour que vous puissiez avoir les références pour aller plus loin.
C'est le livre de Pierre Perrier, le premier, c'est l'évangile de l'oral à l'écrit, où il explique les colliers, comment sont construits les colliers. Et puis il y a Marie.
Alors, vous avez un livre qui s'appelle Marie, mère de mémoire, qui part en fait du livre de Daniel au chapitre 9, qui est l'annonce presque date par date de l'arrivée du Messie. On sait un peu dans la culture chrétienne qu'au temps de Jésus, les gens commençaient à savoir que c'était la bonne période. Donc finalement, ce Messie qui était annoncé depuis des générations, c'était la période où la délivrance devait advenir. Mais on ne sait pas toujours décortiquer. Et alors, Pierre Perrier a décortiqué le chapitre 9 du livre de Daniel, qui est écrit, composé à la manière mésopotamienne, donc avec l'utilisation des chiffres de manière très très précise et à la fois à moitié crypté, si on lit trop vite, surtout que ce texte a traversé les siècles et a subi des rajouts. Mais lui, il s'en rend compte, puisqu'il connaît l'hébreu, donc il voit bien s'il y a des trucs grecs qui ont été mis après. Voilà, il a fait toute une conférence là-dessus. C'est assez fabuleux. En disant, par exemple, il compte... le chiffre 7 est très important, et donc le chiffre 14 aussi. Et alors, vous avez des septaines d'années, par exemple. Voilà. Ou deux fois septaines. Enfin bref, de 49 en 49, que ce soit des années ou des semaines, on savait à peu près quand Jésus allait venir. Et qui allait dire oui pour le recevoir et nous le donner. Alors, le dernier livre qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu, c'est le témoignage primitif de Pierre et Jean. Donc, le fameux discours sous la colonnade de Salomon. Ça, c'est oui. 2014. Et alors, vous avez la découverte de la fresque et son analyse, Thomas en Chine. C'est à la faveur de ce livre que j'ai interviewé la première fois Pierre Perrier. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu plongée dans le... Mais vous pouvez prendre les références si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment passionnant. Alors, si vous avez d'autres questions...
Est-ce que tu peux redire comment, en tant que journaliste, tu es venue à Echo? Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées un peu plus tard.
Ah oui. Alors, donc, je suis journaliste plutôt de la presse écrite. Bien, je travaille aussi pour des sites internet ou des commentaires de documentaires. Mais... C'est en rencontrant justement Pierre Perrier pour l'interviewer sur Thomas en Chine que j'ai découvert l'association qu'il a fondée, donc Enjeux pour l'étude du christianisme des origines. Je vais vous remettre le pour les personnes qui sont arrivées. Donc ça va rien. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de chercheurs, pas mal de Français, mais il y a aussi j'ai aussi interviewé un Canadien. Ils ont le mérite, si vous voulez, contrairement aux gens qui font des calculs pour du profit, j'allais dire, ou du commerce, ils mettent en commun tout ce qu'ils savent. Systématiquement. Dès qu'il y en a un qui découvre quelque chose, il le transmet, ce qui permet aux autres de rebondir. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde commercial. Mais pour eux, c'est primordial. Ça fait avancer les choses. Alors,
s'il vous plaît,
oui.
J'ai une petite question. Ce que vous avez dit sur les termes, ça m'intéresse. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a une méthode pour apprendre
Il y a d'abord, à mon avis, prendre connaissance par un livre, oui. Notamment celui qui s'appelle La transmission des évangiles, qui est un petit bouquin à 14 €. Mais qui est un peu costaud quand même, mais très intéressant, qui vous explique comment ça s'est fait et comment ça se fait. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des écoles d'oralité. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, vous pouvez apprendre certaines perles par cœur, voire l'évangile en entier au fil d'une année. C'est assez extraordinaire comme expérience. Je vous dirais que je connais des catéchistes qui apprennent certaines perles aux enfants.
Il y a une session à Rennes, mais je ne sais pas.
Ah bon ?
Il y a une session à Rennes, je pense, il y a 2 ans. J'en ai entendu parler, mais...
Paraît-il, il y aurait eu une session à Rennes il y a 2 ans. Ça, je n'étais pas au courant, parce que malheureusement, je vis à Bruxelles, donc je connais plus les extraits... Je sais ce qui se passe à Paris, puisque j'y suis tous les mois pour la réunion de recherche et de mise en commun d'écho, mais il y en a aussi ailleurs en France. Mais je trouve que pour les enfants, c'est très important. Et c'était la dernière partie de ma conférence, en fait. Tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on a découvert, à quoi ça nous sert, nous, maintenant ? Quelle est la richesse que ça peut apporter à notre époque? Alors, la première chose, c'est que si l'évangile a vraiment été transmis en araméen, ça veut dire que ce sont vraiment les paroles de Jésus. Ce n'est pas des paroles inventées par diverses communautés chrétiennes 100 ans après. Et ça veut dire que c'est vraiment Jésus qui a fondé l'Église. Que ce n'est pas une aventure humaine, une construction humaine. Ce qui attire un certain respect et en même temps de, comment dirais-je, une, ça, c'est rassurant en soi. Une autre chose, c'est que mémoriser la parole de Dieu, même avec nos mémoires nettement moins bonnes que celles de l'époque, ça permet d'avoir l'évangile dans le cœur. Et imaginez qu'un jour, on brûle toutes les Bibles ou qu'on se retrouve en prison, comme les chrétiens d'Orient, par exemple, ont été emprisonnés. Qu'est-ce que vous dites toute la journée, une fois que vous avez dit votre Notre Père, votre Je vous salue Marie ? Si vous ressortez de votre cœur l'évangile et les belles paroles du Christ. Ça, c'est, ça permet de tenir, hein, je pense. Et alors, ça explique aussi, ça, une des conséquences qui peuvent nous rassurer, c'est que l'Église est apostolique. Donc, quand on ne sait plus vers qui se tourner, il faut revenir aux apôtres. Et ça, ça peut nous servir aussi en ces temps. D'où l'importance de la recherche et le, la reconnaissance qu'on peut avoir pour ceux qui s'y collent.
Oui.
Moi, j'aurais une question. J'imagine tout l'intérêt qu'il y a dans cette oralité de retrouver des sources araméennes, je l'imagine très bien. Mais en même temps, moi, ce qui me gêne, c'est que toute la tradition baptistique, toute l'exégèse, elle est fondée sur des textes grecs canoniques.
Pas forcément.
Sur des textes grecs dits canoniques, et que comment pouvez-vous articuler ce qui viendrait de l'araméen, qui pour moi, comme vous dites, avec mon sol, c'est une langue qui est beaucoup plus floue qu'une. Le grec, et la précision du grec. Or, l'Église, à un moment, elle a bien dit qu'elle a dit qu'il y avait des textes canoniques, et qui sont en grec, et sur lesquels toute la tradition patristique et l'exégèse sont appuyées. Ça ne discrédite pas votre propos, mais comment est-ce que vous voyez une articulation possible ?
Eh bien, d'abord, on peut se référer à Saint-Irénée. Saint-Irénée, c'est vraiment très, très tôt dans l'histoire de l'Église. Il nous dit. Qui a écrit tel évangile ? Il le dit. Il était proche et il a beaucoup moins de chances de se tromper que nous, 10 siècles, 11 siècles, 12 siècles, 15 siècles après.
Il était
syrien. Oui, il n'était pas grec, bien sûr. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, je ne sais pas si vous étiez là au tout début de la conférence, quand j'ai parlé du grec. Oui, honnêtement, C'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je ne suis que transmettre ce que j'ai appris de ces chercheurs. Il n'y a pas un texte grec. C'est sûr que les évangiles ont été canonisés. Ils ont été reconnus, sans doute par l'Église de Jérusalem. Mais à l'époque, ils n'étaient pas déjà grecs. Il y a eu une césure, si vous voulez, entre le départ des textes reconnus par les apôtres et ce qui nous est parvenu. C'est là que, bon, je vous invite vraiment à aller sur le site d'Echo, où ça est encore mieux expliqué que ce que je peux faire ce soir. Donc c'est www.echo.fr, tout simple. Et vous avez une page qui s'appelle La primauté de l'araméen, qui explique encore mieux tout ça. Mais le texte grec original, sans doute, n'existe pas. Il y a plusieurs textes grecs qui ont été concentrés en un, qui, lui, est beaucoup moins riche, parce qu'il n'a pas, justement, cette polysémie de la langue araméenne et qui est passé, du coup, à travers, qui a laissé tomber, je veux dire, certains détails. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple ? Oui, l'histoire du Paul avec le manteau, c'est clair. Non, il y a aussi toute une pédagogie de Jésus qui s'est calée sur la tradition, la liturgie des synagogues, en fait, de son époque. Vous connaissez le passage où on reproche à Jésus d'avoir traversé les champs de blé, d'avoir mangé des grains avec ses apôtres. Enfin, Enfin, lui, spécialement. Tes apôtres ont mangé les grains en traversant alors que c'était le jour du sabbat. Et en fait, très curieusement, dans l'évangile, cet épisode-là est daté. C'est-à-dire que, je crois que c'est dans Luc, je ne suis plus très sûre, pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, ils disent que c'est le premier mois. Le deuxième mois de l'année, donc c'était le mois de mai, parce que l'année commençait en avril, le mois de Nissan, donc c'était le deuxième mois, c'était au mois de mai. Et c'était le premier sabbat ou le deuxième sabbat du mois de mai. Or, la lecture dans la synagogue de ce sabbat-là, c'était le passage du livre de l'Ancien Testament où l'on dit exactement « Tu ne moissonneras pas totalement ton champ, tu laisseras un petit peu sur les bords pour laisser à manger aux pauvres ou à l'étranger. » Donc ça veut dire que le pauvre ou l'étranger, s'il avait faim, il avait le droit d'aller glaner et de pouvoir se nourrir enfin. Pourquoi est-ce que les pharisiens ont quand même créé la controverse avec Jésus en lui disant tu ne devais pas faire ça? Parce que les pharisiens savaient bien que tous les rabbis étaient entretenus, entre guillemets, c'est-à-dire payés, par leurs disciples. Donc Jésus n'était pas un pauvre. Donc il n'aurait pas dû, aux yeux des pharisiens, laisser ses apôtres glaner. Est-ce que les pharisiens n'avaient pas su, ça ne pouvait pas rentrer dans leur tête, c'est que Jésus, justement, avait inauguré une façon d'être rabbi dans la pauvreté. Il n'y avait pas d'endroit où reposer sa tête, et il fallait partir sans tunique de rechange et sans, avec rien dans la besace. Donc il y a des tas d'exemples comme ça qui vous montrent le rattachement entre la civilisation dans laquelle Jésus est né et surtout la culture religieuse qu'ils avaient et la façon dont lui est parti de là pour greffer pour ses apôtres et pour nous, enfin pour les autres jusqu'à nous, des réalités qui sont ancrées dans l'Écriture.
Oui, au fond.
Juste en complément de ce que vous venez de dire pour éclairer la question de notre ami, de récentes découvertes, bon, récentes c'est trop dire, mais des découvertes faites par un exégète américain du nom de Raymond Brown attestent de ce que vous dites. On n'a pas la preuve que les premières transmissions de textes manuscrits sur l'Évangile soient directement en grec. C'est pas vérifié, c'est plutôt qu'on parle de la relation de l'araméen qui finalement sera traduit en grec. Et ça se prouve pour des évangiles tels que celui de Matthieu, qui évidemment fait beaucoup référence à la Torah. On parle beaucoup plus de l'évangile de Marc, qui est juif, et évidemment de Jean, qui est le dernier à avoir transmis cette traduction, puisque Jean il n'a jamais écrit, c'est plutôt son disciple Polycarpe qui va écrire. Mais tous ceux-là vont étudier les textes araméens. Celui dont on pense qu'il a écrit peut-être directement en grec, c'est
Luc. Oui.
Mais même ça encore, ça reste à vérifier.
C'est sans doute pas le cas.
Alors, comme Luc, il est apôtre de Paul, qui était instruit, mais Paul, il ne parlait pas grec. Il était romain et juif.
Il savait peut-être le grec aussi, parce qu'à l'époque, tous ceux qui étaient instruits savaient un petit peu parler grec.
Oui, mais Paul ne parlait pas grec.
J'étais pas là.
Non, on l'a su par les écrits historiques et c'est vérifié. Paul ne parlait pas grec. Et donc, je vais dire, dans le sens de ce que vous avez dit, les premiers textes fondateurs sont supposés être en araméen. Alors, ce n'est pas des vérités absolues, mais la recherche se fait dans ce sens.
On
passe de l'araméen au grec.
Oui. Et on découvre des tas de choses nouvelles, parce qu'on a tellement été habitués à croire que c'était le grec que c'était très étonnant. Vous avez une autre question?
Mais que vous avez... fait votre prestation un peu
la perle.
C'est ni C'est intéressant de voir que non seulement c'est l'oralité, mais c'est la gestuelle.
Ah, tout à fait.
Donc le lien entre les deux est très important. Et il y a en ce moment, il y a des sessions qui sont faites dans différentes communautés pour transmettre ça, à la fois le geste et la parole. Et je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est
les écoles d'oralité.
Comment ?
Les écoles d'oralité. À la suite de Marcel Jousse. Absolument, absolument. Et maintenant, c'est très vivant. Et donc, c'est aussi ce qu'on apprend quelquefois aux enfants. Et je connais un père de famille qui a appris ça à ses enfants, et alors qui récitait tous les trois. Et toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite ! Retire d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de retirer. Et les enfants, ça les marque, vous comprenez ? C'est une façon aussi de transmettre l'évangile avec ça marque leur mémoire parce que les gestes et parce que c'est des phrases courtes, etc. C'est intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous invite à vous renseigner un petit peu davantage, si ça vous tente, et donc à me donner vos adresses mail. On va faire passer. T'en as pas fait passer ? Ceux qui veulent, ça ne veut pas dire que je vais transmettre à tout le monde les adresses mail des autres. Ça veut dire simplement que si vous voulez que je vous envoie un article, soit sur le colloque international, soit sur Thomas en Chine, la découverte de Thomas en Chine. Soit sur une des questions qui a été traitée ici, ce sera volontiers. Je peux vous demander de l'aide, monsieur, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à repasser au début pour passer le titre. Je ne sais pas. Ça n'a pas pu. Voilà. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà, donc j'aurais dû mettre le site, le nom du site.
S'il vous plaît, il y en a plusieurs qui demandent la Bible de Chouraki.
Oui,
qu'en est-il par rapport à
c'est une traduction en araméen,
hein.
De l'araméen.
Mais
non,
c'est le contraire. Il a
traduit. Non, il a eu une transformation en fait. Ouais. Il est parti du grec.
Il a
retranscrit en araméen.
En hébreu.
Oh non, en hébreu.
En hébreu.
Il est reparti du grec en fait.
Il est parti du grec.
C'est pas inintéressant, mais ça ne veut pas rendre la même chose. C'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir repris contact avec nos frères chaldéens, parce que eux, ils ont le texte d'origine.
Mais il y a une traduction de ça. Il y a une...
Après, on a pu traduire en français à partir du texte chaldéen. Donc, on a l'évangile de manière un peu plus. J'allais dire poignante, un petit peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est plus fort, c'est plus intense.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle comment ? C'est juste.
Bah, c'est l'évangile.
En fait, qui est-ce qui a cet évangile ? Les chrétiens chaldéens ?
Les chaldéens, ils l'ont en araméen. Est-ce qu'ils l'ont en français ? On en trouve. On en trouve des traces sur le site d'Echo.
Ils peuvent avoir des textes pour les lire chez eux.
Mais il faut avoir le bouquin, quoi. C'est ça. Moi, j'en ai deux évangiles. J'ai pas les quatre, d'ailleurs. Non, j'ai l'Apocalypse.
Thank you.
je pourrais demander aux communautés chaldéennes que je connais à Bruxelles. Mais en fait, ils parlent pas le français la plupart. Parce que j'en ai vu qui sont venus à la messe de Noël. Il y avait une cérémonie dans l'église chaldéenne qui était aussi en France, pour les Français. Et j'ai bien vu à la communion, par exemple, il y a plein de chaldéens qui sont venus communier, mais le Père leur proposait le corps du Christ en araméen. Donc c'est là que j'ai vu que c'était des chaldéens, mais ils ne leur parlent pas, français, quoi. Donc c'est pas forcément près d'eux. Mais je demanderai à ce prêtre. Oui, monsieur.
Quelle était la langue des documents qui ont été découverts dans la grotte de Qumran?
Ah, essentiellement de l'hébreu.
D'accord.
Ce sont des documents qui couvraient 4 siècles, en fait. Donc on a découvert des documents qui étaient avant Jésus-Christ et d'autres juste au moment du Christ, quoi. Il y a des choses très, très différentes.
Des nouveautés à travers.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un peu?
J'ai un exemple qui m'a frappé et qu'on a découvert dans un des manuscrits de Qumran, le calendrier de passage des prêtres pour le service du culte. Vraiment un calendrier très précis. Vous savez qu'il y avait des familles donc de grands prêtres, et donc ils avaient un tour de rôle pour célébrer. Et alors ça a permis de déterminer à quel moment le prêtre Zacharie, père de Jean-Baptiste, donc a célébré donc dans le temple de Jérusalem. Et on sait qu'il a célébré à l'automne. On a les dates, en fait. On a les dates grâce à un manuscrit de Qumran. Et c'est vraiment très intéressant, parce que si on sait qu'il a eu l'annonce de la naissance d'un fils chez lui, le temps qu'il rentre chez lui. Mais en fait, non, mais voilà, c'est vraisemblablement fin septembre, en fait. La date à laquelle il était, ça correspond. Bon, c'était le calendrier lunaire, vous savez, à l'époque. Les heures du jour étaient calées sur le soleil, mais les mois étaient les mois lunaires. Donc ça correspond à peu près au 23 septembre de cette année-là. Donc si vous calculez 9 mois, bon, ça nous emmène au 23-24 juin, quoi. Non. C'est d'autant plus intéressant que si on considère que les évangiles disent la vérité et que quand Marie a reçu son annonce, on lui a dit que sa cousine était enceinte de 6 mois, ça veut dire qu'il y a bien 6 mois d'écart entre la naissance de Jésus et de Jean-Baptiste, et 6 mois après le 24 juin, excusez-moi, c'est le 24 décembre. Donc on ne vient pas nous dire que c'est juste pour remplacer les fêtes du solstice, etc.
Le Sol Invictus qui a été créé par Adrien 3 siècles après.
Il avait été déjà un petit peu célébré avant Jésus-Christ, le Sol Invictus. Mais il y a une autre raison, moi, qui m'a toujours habité, je dirais, c'est que c'était également la fête de la dédicace du temple. Dédicace du temple, quand le temple a été reconstruit. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la dédicace d'un temple, si ce n'est l'arrivée du Sauveur? Donc si nous, humains, on avait eu l'idée de placer la naissance de Jésus au moment de la dédicace des temples, c'est peut-être penser que le Seigneur y avait pensé avant. Donc cette date n'était pas fortuite. Mais voilà, hein, le résultat de Qumran, ça nous emmène à ça, par exemple. Plus on recherche, plus on trouve. C'est magnifique. Ça.
Est-ce qu'on continue de...
De chercher ?
De chercher à Qumran.
Mais oui, la preuve, c'est que celui-là, il a été découvert. Moi, je l'ai su il y a 2 ans. Mais ils l'ont peut-être su il y a 4 ans. Mais c'est quand même... si vous voulez, c'est pas qu'on découvre forcément, c'est qu'on étudie ce qu'on a trouvé. C'est comme les papyrus d'Oxyrhynque. Vous avez peut-être entendu parler, en Égypte, la ville antique d'Oxyrhynque. En fait, on a trouvé sous un tas de détritus, dans le sable, une quantité énorme de papyrus. Et ce sont des manuscrits qui couvrent une grande période. Et ils sont tous numérotés, MS machin chouette, manuscrit intrus, et on étudie encore. Ils sont conservés très bien parce que c'est un climat très sec. Donc il y a des choses qui peuvent se conserver quand elles sont enfouies dans le sable. Mais c'est extraordinaire parce que ça date d'avant Jésus-Christ, la plupart. Donc on trouve encore des choses. Sans parler de l'Égypte, alors ça c'est encore autre chose. Le tracé de la Sainte Famille en Égypte. Ça, c'est aussi quelque chose de magnifique. J'ai interviewé une historienne qui m'a expliqué, mais en Égypte, au 1er siècle, un quart de la population était chrétienne. Au 2e siècle, la moitié. Et il y a des personnes, quand Marc est allé évangéliser l'Égypte, il y a des personnes qui disaient: mais oui, mon père m'a raconté qu'il y avait une famille avec un petit bébé extraordinaire, etc., etc. Il y avait des traces. C'est pas une légende. Les Égyptiens le savent. D'ailleurs, nos frères coptes le disent. J'ai aussi interviewé un coptologue, encore une chaire universitaire que je ne connaissais pas, la coptologie. Et donc ils ont fait des recherches dans leur pays et ils ont trouvé des choses extraordinaires. Au Caire, par exemple, au sud du Caire, vous avez une banlieue chic qui s'appelle comment ça s'appelle ? Ça y est, je vieillis. Non, je ne sais plus. Bah, bon. Eh bien, il y a une église ancienne qui a été construite sur une église encore plus ancienne, sur une crypte. Et sur cette crypte, au bord de cette crypte, pardon, il y a un escalier qui descend dans le Nil. Et il y a, je crois, dans les années 1900, on a trouvé sur le bord du Nil, au pied de l'escalier, une Bible, ou une grosse Bible, ouverte dans l'eau, ouverte à la page où il est écrit « D'Égypte, j'appellerai mon fils ». Bon, ça fait quand même un petit miracle, un clin d'œil, on dirait, un clin d'œil, pour dire, voilà, c'est pas rien que c'est pas Mahoré, comment ça s'appelle, au sud du Caire, prenez la route sur la gauche du Nil, marchez 20 minutes, je ne sais plus, je ne sais plus, bon, c'est pas grave, mais il y a des tas d'endroits en Égypte où il y a des choses comme ça, qui ont été rapportés génération en génération. Et en fait, Sainte Hélène, une fois qu'elle a été en Terre Sainte et qu'elle a retrouvé la croix du Christ et les lieux saints, elle est allée en Égypte. Et elle a fait le tour des points où on lui disait que la Sainte Famille était passée. Parce que de génération en génération, on lui disait « Mais mon grand-père m'a raconté que son grand-père, etc. » Et d'ailleurs, vous avez sur le bord, sur une falaise, sur la rive droite du Nil, vous avez une petite grotte, une petite chapelle qui a été fondée par Sainte Hélène. Et on sait d'ailleurs qu'au 5e siècle, quand il y avait une chrétienne qui s'appelait Égérie, vous avez peut-être entendu parler d'elle, une pèlerine, elle faisait le pèlerinage d'abord en Terre Sainte, ensuite en terre sanctifiée. La terre sanctifiée, c'est l'Égypte. Donc, à cette époque, on ne doutait pas qu'on ne disait pas l'histoire de la Sainte Famille, c'est une légende, machin chouette. Non. On s'appuyait sur des réalités qui sont là et des étapes. Et maintenant, le ministère des Affaires touristiques, le ministère du Tourisme de l'Égypte s'est emparé de la question pour essayer de faire un circuit. Quand on fait les routes de Compostelle, vous voyez, pour attirer davantage de pèlerins. Et donc, ils ont répertorié, à l'aide des coptes, les lieux les plus probables, voire les plus certains, du passage de la Sainte Famille. Merci d'être venus nombreux, c'est quand même... Super, je suis allée faire une conférence à Lyon. la même, à peu près la même conférence, enfin disons sur le même sujet, juste un mois, et en fait, on n'était que 30. Vous voyez, vous êtes... non, non. Alors, je vous recommande vraiment le petit livre « La transmission des évangiles », le petit livre bleu qui parle de l'oralité et qui est donc le petit livre à 14 euros qu'on trouve facilement.